Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre de l'Éducation nationale. Vos questions dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Bonjour.
Une principale de collège de Seine-Saint-Denis a tenté de mettre fin à ses jours dans le logement qu'elle occupe au sein de l'établissement scolaire, déclarant, je la cite, ne plus supporter l'éducation nationale. Moins d'un mois après le suicide d'une directrice d'école maternelle à Pantin, alors qu'une lettre ouverte de 200 directeurs et directrices d'école vous appelle à un dialogue réel. Quelle est votre réaction ce matin, Jean-Michel Blanquer, à ce qui aurait pu être un nouveau drame ?
Tout suicide est évidemment un drame, et même toute tentative de suicide. Donc, et à chaque fois, il faut prendre cela dans toute la complexité de ce que ça représente. Il y a ce suicide de Madame Renon à Pantin, qui nous a évidemment tous marqués, et qui, en effet, interroge sur ce que c'est d'assumer une mission de service public au quotidien dans des terrains qui sont parfois difficiles. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la réflexion sur les directions d'école, qui était déjà d'ailleurs très amorcée, hein, ça fait 2 ans que je parle de cela, en effet, doit s'accélérer pour arriver à des résultats. Voilà. Et donc, je réponds oui à chacune de vos questions, c'est-à-dire, bien sûr, c'est absolument dramatique ce qui s'est passé. Deuxièmement, ça nous renvoie à des problèmes structurels, notamment pour ceux qui sont en responsabilité, c'est-à-dire les directeurs d'école et les chefs d'établissement. Maintenant, sur la question des suicides, j'ai demandé la réunion, et les organisations syndicales le souhaitaient, du comité technique paritaire qui permet d'étudier cela, donc je donnerai des chiffres. Normalement, d'après les éléments que j'ai, il n'y a pas plus de suicides dans l'éducation nationale que dans la société française, et plutôt moins d'ailleurs que dans d'autres services publics. Mais néanmoins, bien entendu, on doit toujours être vigilant. Et puis surtout, si vous voulez, j'insiste en permanence sur le bien-être des personnels. Bien sûr, on est 1 million de personnes, donc c'est pas un objectif toujours facile, bien sûr. Mais en tout cas, c'est évidemment quelque chose qu'on doit en permanence avoir à l'esprit, en le tournant dans le sens positif. C'est-à-dire, c'est pas seulement lutter contre le mal-être, c'est le bien-être des professeurs. Le bien-être des professeurs, ça passe par une série de critères de santé, des critères de sécurité, des critères aussi de bonnes relations avec l'institution. Tous ces sujets, évidemment, doivent progresser, et nous prenons d'ailleurs des mesures qui vont dans ce sens. Le dialogue social qui a existé tout au long de l'année dernière a amené, par exemple, à un certain nombre de choses qu'on appelle la gestion des ressources humaines de proximité, qui se met en place, par exemple, qui permet d'avoir un dialogue pour un quart des personnels aujourd'hui, c'est une réalité, c'est-à-dire pouvoir rencontrer une personne sur ses enjeux de carrière. C'est un exemple parmi d'autres.
Mais tout de même, Jean-Michel Blanquer, pardon, sur ces suicides, vous remettez en perspective les chiffres, mais nous, on voit cette lettre, j'ai voulu me suicider parce que je ne supporte plus l'éducation nationale. C'est assez dur de dire ça. Ces drames, à vos yeux, sont-ils des drames individuels, ou vous pensez que le système scolaire en lui-même est touché, que ces directeurs d'école, que ces professeurs sont entrés dans un état de désarroi, voire de désespoir tel, car ils n'en peuvent tout simplement plus, qu'ils se sentent seuls, qu'ils se sentent écrasés par la tâche et sans moyens?
Je pense qu'il faut distinguer les sujets, parce que certaines façons de commenter les choses peuvent être un petit peu dangereuses. Reconnaissez le suicide, c'est un sujet complexe, et le sujet philosophique par excellence, comme le disait Camus, et je pense qu'on a tous intérêt à commenter toujours dignement chaque suicide, quel qu'il soit, qui d'ailleurs renvoie à chaque fois à un cas particulier. Donc il faut parler toujours de ça avec beaucoup de respect et beaucoup de recul. Maintenant qu'il y ait des difficultés dans l'exercice du métier, je suis le premier à le reconnaître, que parfois ça puisse mener à des actes extrêmes, c'est un fait. C'est malheureusement d'ailleurs pas nouveau. C'est arrivé tout au long des dernières décennies. C'est évidemment à éviter autant que possible. Maintenant, notre manière de traiter cela doit être digne, c'est-à-dire qu'on doit regarder, et notamment dans le cas que vous évoquez, regarder ce qui s'est passé, pourquoi, et bien entendu faire tout l'accompagnement nécessaire et le faire dans un esprit constructif. C'est ce que je fais avec les organisations syndicales. Le sujet des directeurs d'école, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, encore une fois, je le considère comme un sujet d'une particulière acuité, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on doit faire des améliorations. Je le dis depuis longtemps, et donc on va en faire.
Il vous interpelle.
Et d'ailleurs, alors, j'en profite pour le dire.
Il vous interpelle, Jean-Michel Blanquer, dans une lettre ouverte 200 directrices donc et directeurs d'école. J'aimerais citer la lettre. Ils se disent oppressés par une institution, obsédés par la mesure et le contrôle, submergés de tâches administratives qui, je les cite encore, ne leur permettent plus de faire vivre leur projet d'école et ils vous interpellent. Comment avez-vous pu, par votre absence d'écoute, permettre que notre collègue en vienne à ce geste ultime? Les mots sont durs et forts. Qu'est-ce que vous leur répondez?
C'est surtout la dernière phrase qui est dure et très injuste. Tout le reste, je suis d'accord. C'est-à-dire que je le dis, et d'ailleurs je le dis depuis que je suis arrivé, à chaque fois que je réunis les cadres ou les personnels du ministère, je dis, vous êtes d'abord des pédagogues. Je dis tout particulièrement justement aux directeurs d'école ou même aux inspecteurs de l'éducation nationale que je voyais hier. Je leur dis ça, je leur dis, vous êtes d'abord des pédagogues. Ne nous laissons pas accaparer par les tâches administratives. Et par exemple, dans les mesures que je prendrai en faveur des directeurs d'école, il y aura un allègement des tâches administratives. Ce sujet, il n'est pas apparu avec l'exercice des responsabilités que j'ai prises depuis 2 ans, pas du tout. Il existe depuis très longtemps, les choses se sont accumulées.
Il y a un ras-le-bol, là?
Sur ce sujet, vous savez, notre société est traversée
scolaire.
Par un certain nombre de tensions, ça n'échappe à personne, et je crois même que c'est pour réussir à sortir de ces difficultés de la société que Emmanuel Macron a été élu et que nous sommes là pour faire des réformes qui sont pas toujours faciles. Mais sur la direction d'école, vous l'entendez bien, je suis dans une écoute réelle, donc c'est pour ça que la dernière phrase est injuste, puisque nous avions même lancé un rapport parlementaire sur le sujet, que je suis à l'écoute. Maintenant, il y a des visions différentes du sujet. Et on
c'est
doit
ce que
même
j'allais
accepter.
Vous dire, parce qu'on entendait par exemple un auditeur qui a appelé hier, qui parlait des emplois aidés, qui disait à un prof, avec la suppression des emplois aidés, le problème c'est qu'on croule sous une tâche qu'on doit faire seul, alors qu'on avait un emploi aidé pour nous aider à faire cette tâche administrative.
Oui, mais j'entends tout à fait cette remarque, hein, et je l'ai d'ailleurs souvent prise en compte. Il y a heureusement dans certains endroits de l'aide qui peut exister, notamment en lien avec les collectivités locales pour les directeurs d'école. Il y avait aussi des critiques sur la façon dont ça se passait pour les contrats aidés, puis la critique générale sur les contrats aidés qui était que ça précarisait des personnes, tout simplement. Donc c'est typiquement le genre de sujet sur lequel il y aura des avancées, et j'espère pouvoir, au retour des vacances de la Toussaint, pouvoir annoncer un certain nombre d'avancées.
Donc il y aura un retour de plus d'emplois aidés à l'école.
Il y aura de l'aide supplémentaire pour les directeurs d'école dans le futur. Ça fait partie des choses que l'on doit faire.
Donc vous revenez un petit peu sur la philosophie du recul des emplois aidés.
Non, c'est pas du tout un retour en arrière. L'aide que l'on peut donner aux directeurs d'école, et encore une fois, c'est quelque chose qui doit encore se discuter sur ces modalités, mais ce sera pas au travers de contrats aidés. Les contrats aidés avaient toute une série d'effets pervers, et il a été tout à fait normal de prendre cette mesure qui était difficile, courageuse, qui a pu avoir parfois des effets difficiles sur le terrain, je n'en disconviens pas, mais c'est quelque chose de meilleur que nous devons faire. Et ce n'est pas la seule chose à faire. Vous voyez, hier, j'entendais un ami commun qui me parlait d'un directeur d'école dont il était l'ami, qui me racontait son quotidien. Et il me disait qu'il passait une bonne partie de son temps à faire l'aller-retour avec la porte de l'école pour ouvrir à des parents qui sonnaient. C'était totalement absurde que le temps du directeur d'école soit pris par cela. Donc c'est l'intérêt de tout le monde que d'avoir une personne qui se charge de cette ouverture de la porte. Vous voyez, c'est des choses très concrètes. C'est même pas d'ailleurs de l'aide administrative dans l'exemple que je viens de donner. C'est de l'aide au quotidien, notamment dans la relation avec les parents d'élèves. Je parlais avec une autre directrice il y a quelques jours. Cette directrice me disait que c'était moins d'une aide administrative qu'elle avait besoin que cette aide de médiation au quotidien, notamment pour la relation avec les parents d'élèves, ou pour des petits actes du quotidien. Mmh. Donc c'est ces choses-là qui doivent progresser, j'en suis conscient. On va avancer, j'en suis certain. Faisons-le de manière constructive puisqu'on est d'accord sur le diagnostic.
Encore une question sur les moyens, là, strictement. Jean-Paul Delahaye, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, pointe dans Mediapart la baisse des fonds sociaux qui sont une aide destinée aux familles ayant des difficultés à faire face aux dépenses de scolarité, de vie scolaire de leurs enfants. Ces fonds, dit-il, vont passer de 59 millions en 2019 à 30 millions en 2020. Est-ce que vous confirmez cette baisse ?
Non, c'est une façon de présenter les choses qui est un tout petit peu fallacieuse, pardonnez-moi de le dire, parce que si c'est des questions de présentation budgétaire. L'année dernière, c'est une somme inférieure à ces 30 millions qui a été dépensée. Donc, en bonne rigueur budgétaire, en bonne technique budgétaire, ça ne sert à rien de mettre plus que ce qui est consommé. En revanche, nous savons mettre plus quand il y a besoin de plus. Autrement dit, cette somme de 30 millions peut être dépassée, mais ça n'a pas de sens budgétairement de programmer plus quand il est consommé moins. En revanche, nous prenons des mesures sociales qui ne sont pas forcément dans les fonds sociaux. Exemple, les cités éducatives que nous sommes en train de créer, qui existent maintenant dans 80 endroits de France, et nous en développerons d'autres, nous faisons ça avec Julien de Normandie, qui permettent de donner des moyens financiers aux chefs d'établissement pour des projets qui jouent sur les facteurs sociaux de la réussite scolaire. Donc ça, ce genre de polémique, c'est typiquement ce que que soulève en l'occurrence quelqu'un comme Monsieur Delahaye, c'est fait pour essayer de faire une critique sociale au moment même où justement nous dépensons en réalité plus d'argent sur les sujets sociaux à l'école.
Vous dites que si ça passe à 30, c'est parce que 30 millions de crédits n'avaient pas été consommés l'année dernière.
C'est la différence entre 50 et 30 n'avait pas été dépensée, tout simplement. Mais c'est très classique. Il le sait, il est ancien directeur général de l'enseignement scolaire, il sait parfaitement cela. Donc c'est une visée polémique. Vous savez, sur ces sujets, il y a les mots et puis il y a les faits. Hein. Ce qui me caractérise peut-être sur les sujets du progrès social, c'est que je ne me contente pas de mots, j'essaye d'agir pour de vrai.
Jean-Michel Blanquer, la question du voile fracture la majorité depuis quelques jours après l'esclandre dans un conseil régional d'un élu Rassemblement National qui a pris à partie et humilié une mère de famille voilée. Vous avez déclaré que vous préfériez que les mères ne se voilent pas parce que, je vous cite, le voile n'est pas souhaitable dans la société. Si Beth Ndiaye, du même gouvernement, elle ne voit pas le problème, est-ce que vous assumez d'abord avoir des divergences, voire des contradictions sur ce sujet au sein même du gouvernement ?
Non, avec si Beth Ndiaye, on a plutôt des nuances que des divergences, vraiment profondément. D'ailleurs, on en parle très, très clairement, ce qui est d'ailleurs normal. Je pense que même quand vous avez un repas de famille sur ces sujets, vous avez forcément des nuances.
Mais c'est en tout cas, c'est pas plus que des nuances. C'est quoi vos nuances avec elle ?
Non,
si vous deviez mettre des mots.
Non, d'abord, je voudrais dire plusieurs préalables parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ces sujets. D'abord, ce sujet de l'accompagnement des mères voilées n'est pas un sujet très important. Et je n'ai cessé de le dire. Et d'ailleurs, ce n'est jamais moi qui le mets sur le devant de la scène. Je suis obligé de répondre, comme je vais le faire maintenant. Je ne veux pas me dérober, mais ce n'est pas un sujet très important. Il y a des sujets beaucoup plus importants relatifs à la laïcité auxquels on doit faire face. Mais c'est un sujet qui est un sujet complexe, parce que c'est un sujet hybride. C'est un sujet pour lequel notre raisonnement doit toujours être la laïcité, bien entendu, et donc la neutralité politique et religieuse que l'on doit avoir dans nos établissements et que nous devons aux enfants, comment nous leur assurons un environnement libre de tout prosélytisme, de toute pression religieuse ou politique. C'est ce que nous devons aux enfants et ça doit être le point de départ de tout raisonnement. À partir de là, la sortie scolaire, c'est quelque chose d'hybride, parce que c'est pas tout à fait l'école, mais c'est pas non plus tout à fait comme se promener dans la rue. C'est quelque chose d'hybride. C'est donc assez normal qu'il y ait des positions hybrides sur le sujet. Ma thèse est toujours la même, je ne change pas. C'est-à-dire, la loi n'interdit pas l'accompagnement. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit se réjouir du développement du voile dans notre société et des mères d'école accompagnatrices ? Non, je peux pas m'en réjouir, je pense. Sinon, dans ces cas-là, il faudrait que j'abandonne l'objectif d'égalité homme-femme auquel je tiens et auquel tient le gouvernement.
D'ailleurs, c'est la votre nuance avec Sibeth Ndiaye.
Parce que je pense que Sibeth pense la même chose que moi. Et d'ailleurs, Marlène Schiappa, par exemple, pense 100% ce que je viens de vous dire. On en parle fréquemment. Donc, il n'y a pas une contradiction. On veut tous que les mamans voilées ne se sentent pas discriminées. On veut tous qu'elles aillent à l'école. On veut tous que leurs enfants soient scolarisés dans l'école de la République. On veut tous que les filles de ces mamans se sentent citoyennes de France et heureuses de l'être et que ce soit des femmes égales des hommes.
C'est passé au Conseil régional par les élus.
Bien sûr, je l'ai dit. Et ce qui est très frappant, c'est que je l'ai dit, j'ai condamné très fermement et très clairement ce qui s'est passé, qui est honteux, parce que c'est en plus quelque chose. On ne doit jamais être dans cette situation de héler qui que ce soit. On ne se met pas dans la position de quelqu'un qui aurait une autorité de service public pour le faire comme ça. Donc c'est déjà première chose, le faire devant des enfants. C'est une circonstance plus qu'aggravante, donc je l'ai condamné, mais comme par hasard, dans toutes les reprises que l'on fait, on isole un morceau de phrase, que j'assume parfaitement, quand je dis que le voile n'est pas souhaitable, oui, je pense que c'est pas souhaitable, et c'est ma vision de l'émancipation de la femme, et je suis parfaitement libre de dire cela. Et par ailleurs, il y a plein de choses dans notre société qui sont autorisées, qui sont pas pour autant souhaitables. Regardez, sur un autre sujet de laïcité du quotidien, vous avez des hommes maintenant qui refusent de serrer la main à des femmes. Est-ce que on va faire une loi pour interdire à des hommes obliger les hommes à serrer la main des femmes ? Non, bien entendu, ce serait absurde. Pour autant, c'est pas souhaitable qu'ils le fassent. Et donc, soit on abandonne tout regard sur ces questions et on fait comme s'il n'y avait pas un problème, soit on le dit, mais il faut le faire de manière apaisée, en ne confondant pas les sujets. Et non plus en ne les accentuant pas, parce que ce sujet-là n'est pas... Je sais que ça plaît au maelstrom médiatique dont on a toujours besoin, ça nourrit le débat, mais moi, je ne souhaite pas que ce sujet-là devienne un sujet récurrent dont on parle en permanence.
Vous êtes interpellé.
Je pense qu'il est réglé par la situation juridique actuelle. C'est important qu'on passe un peu à autre chose.
Vous êtes interpellé, Jean-Michel Blanquer, par 90 personnalités dans une tribune au Monde. Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans ? Ces 90 personnalités demandent au président de la République de condamner cette agression de cette mère accompagnatrice scolaire. Ils reviennent sur vos déclarations et disent que vous êtes, je les cite, l'illustre même d'une stigmatisation sont assumées jusqu'au plus haut niveau de l'État. Là encore, que leur répondez-vous ?
Alors, beaucoup de choses à dire sur un tel sujet. Le temps manquerait, il faudrait une émission complète. D'abord, il y a des choses qui sont parfois insultantes dans ce type de propos.
C'est le cas là pour vous.
Je suis l'héritier de la tradition républicaine. C'est très clair. Je suis pour un modèle républicain, qui est un modèle français, qui est par exemple pas le modèle anglais. Aujourd'hui, quand vous allez en Angleterre, en effet, vous avez des sociétés juxtaposées. Et ça, ça réunit des gens qui sont soit des partisans du laisser-faire, laisser-aller, donc peuvent avoir leur villa avec piscine, ce qui compte, c'est qu'ils soient bien, ils se fichent de ce qui se passe dans le reste du pays. C'est pas ma vision des choses. Puis les gens donc qui sont pour le laisser-faire, laisser-aller, et puis les gens qui sont tout simplement pour la juxtaposition de principes communautaristes. La France s'est battue sur tout à fait autre chose depuis 1789 et avec les moments très forts de la Troisième République. Nous avons deux siècles de combat pour cela, qui est l'égalité des citoyens. Le fait que nous formons une république et que cette république, sa colonne vertébrale, c'est justement l'école. Donc voilà, tout ce que je fais m'inspire. Et c'est pour cela que, bien entendu, il y a quelque chose d'insultant dans ce qui est dit là, et c'est d'ailleurs une vision communautariste qui s'exprime au travers de ça, c'est que je me fiche de savoir que quelqu'un est musulman, juif, bouddhiste, chrétien, athée. Il est citoyen de France. Et c'est précisément parce que j'ai eu la bienveillance la plus absolue vis-à-vis de tout enfant de France, de tout enfant de la République, que je prends les positions que je prends. Et donc, c'est pour ça que mon souci principal, c'est d'ailleurs que tous les enfants aillent à l'école. Ils aillent à l'école de la République. C'est pour ça qu'on fait l'instruction obligatoire à 3 ans. C'est pour ça qu'on a des mesures sociales du type les REP et REP+. Vous savez, des mamans voilées, j'en vois beaucoup, moi, parce que je suis tout le temps sur le terrain et je vais souvent dans les quartiers défavorisés. Et donc, en effet, je vois les mamans voilées. On s'entend d'ailleurs, on a souvent des discussions très intéressantes et il n'y a strictement aucune crispation. Et je suis parfaitement conscient du fait qu'il faut justement avoir une politique d'intégration, mais sur le modèle républicain français, et sapristi, ne comptez pas sur moi pour avoir honte du modèle républicain français. C'est quand même incroyable aujourd'hui que quand vous dites une phrase comme « le voile n'est pas souhaitable », vous avez la terre entière qui vous traite de réactionnaire, alors que vous êtes juste républicain. Donc je suis dans la ligne de Jules Ferry et de Jean Zay, et je serai toujours avec ma colonne vertébrale sur ces questions-là, et je me laisserai pas impressionner par des gens qui défendent des thèses communautaristes.
Jean-Michel Blanquer, ce débat, vous dites les médias en font beaucoup sur cette question-là, c'est une question qui n'est pas fondamentale, mais ce débat arrive aussi après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la société de vigilance et la nécessaire détection de ce qu'il appelle les signaux faibles. Vous avez parlé de signes de radicalisation à l'école. Vous avez dit on voit parfois des petits garçons qui refusent de tenir la main à une petite fille. Si cela débouche sur un problème grave, on le signale. Alors, combien de petits garçons il s'agit? Combien il y en a qui tiennent pas la main des petites filles? Et à qui on signale des petits garçons qui tiennent pas la main?
Non, mais c'est, là encore, c'est, ne tombons pas dans la caricature. D'abord, d'abord, on confond différents sujets. Il y a le sujet de la lutte contre la radicalisation. C'est un sujet. C'est ce sujet-là qu'a traité le président de la République dans son discours à la préfecture de police de Paris, d'une part. Il y a la lutte contre le communautarisme. C'est pas la même chose. C'est pas parce que vous êtes communautariste que vous êtes dans la radicalisation. Mais on peut aussi être contre le communautarisme. C'est pas notre modèle de société.
Je peux me permettre, puis, c'est ces signaux faibles qui incluent l'idée des signaux faibles.
Bah il y a des signaux faibles.
Il y a
des liens entre les sujets.
C'est le président de la République, d'une certaine manière, qui ouvre la voie à ce qui s'est passé aussi à l'université de Sergi Pontoise.
Le président de la République. Non, c'est faux. C'est justement parce qu'on installe de la confusion dans la société qu'on fait ce type de raccourci. Non, alors, le clarifié. Président de la République, c'est ce que je suis en train de faire. Encore une fois, je vous proposerai trois catégories de réflexion. Il y a une catégorie de réflexion qui est la lutte contre la radicalisation, et je vais vous en parler un instant. Il y a la lutte contre le communautarisme, c'est le propos que je tenais il y a un instant, c'est-à-dire quel est notre modèle républicain, et donc je l'assume, je le défends. Oui, nous sommes tous égaux, citoyens de la République, avec notamment une liberté homme-femme à laquelle nous tenons énormément, et nous sommes pour l'émancipation par l'éducation. Voilà, c'est clair, c'est dit, c'est le modèle républicain, c'est pas le modèle communautariste. Il y a d'autres sociétés, y compris démocratiques, y compris en Europe, qui, comme l'Angleterre, qui vivent sur le modèle communautariste, c'est pas le nôtre, et je pense que ce modèle est dangereux. Voilà.
Maintenant,
le troisième, c'est le sujet du respect de la laïcité dans la vie quotidienne, et notamment dans l'école. Et donc, le respect de la laïcité, ça, c'est tout simplement la neutralité politique et religieuse, qui est une garantie que nous devons à chaque enfant.
Alors,
de la
radicalisation, alors, sur les petits enfants qu'on doit signaler.
Sur la radicalisation, j'étais interrogé sur le fait qu'il y avait des signes de communautarisme et puis des signes de radicalisation. C'est pour ça qu'il y a ce compactage des deux sujets. Mais c'est deux sujets un peu différents. Bien sûr, il peut y avoir un lien. Donc oui, il y a ce que l'on constate de plus en plus, et les professeurs d'école primaire le savent, je parle avec eux, je ne dis pas ça de nulle part. Eh bien oui, ils vivent des phénomènes qui traduisent un impact communautariste et parfois qui peut être un signal de radicalisation dans les écoles. Et donc, oui, nous demandons de le signaler parce que si on ne le faisait pas, on serait dans quelque chose qu'on nous reprochait. Si un jour il y a un problème de sécurité grave dans une école et qu'il y avait des signes que nous n'avons pas détectés, eh bien, on nous le dirait. C'est pourquoi il y a des remontées. J'ai des remontées quotidiennes sur les sujets de violence et sur les sujets de radicalisation. Donc, c'est la première fois. Nous avons introduit cela, donc pas avec méthode, avec sérieux, avec rigueur, et c'est ce qui me permet de rendre compte de ces sujets-là régulièrement, comme je m'y suis engagé, et pour le sujet de la violence, et pour le sujet de la radicalisation.
On va au standard de France Inter, où nombreux auditeurs nous attendent. Bonjour Amandine. Vous êtes
oui,
là
bonjour.
On vous écoute.
Oui, je suis là.
Bienvenue.
Oui, tout à fait. Bonjour, je voudrais juste demander à M. Blanquer combien de suicides de directeurs il va lui falloir pour qu'il puisse réagir à nos malaises. Et à nos problèmes.
Vous êtes directrice d'école vous-même ?
Oui.
Merci pour cette question. Jean-Michel Blanquer vous répond.
Oui, bonjour madame. Écoutez, je pense avoir un peu répondu dans une réponse précédente. C'est-à-dire que il y a actuellement un dialogue sur la question des directeurs d'école qui débouchera sur des mesures concrètes dans les prochaines semaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les grandes pistes, c'est notamment d'avoir moins de tâches administratives pour les directeurs d'école, d'avoir plus d'aide pour le quotidien, notamment pour la relation avec les familles. Et troisièmement, d'avoir une plus grande reconnaissance du métier, ce qui est la discussion d'ailleurs la plus complexe, parce qu'elle renvoie aussi au statut juridique que nous donnons aux directeurs
d'école. Donc des annonces concrètes après la Toussaint.
Donc je pense qu'il faut certainement éviter tout désespoir sur ce sujet. C'est une fonction magnifique, très reconnue. Je rends hommage aux directeurs d'école. L'école primaire est la priorité des priorités de mon mandat, je l'ai toujours dit. C'est pour ça d'ailleurs que nous mettons des moyens supplémentaires à l'école primaire en ce moment, alors qu'il y a moins d'élèves à l'école primaire. Nous le faisons. Et donc, ce que je veux, c'est une tonalité d'espoir. Vous savez, tous les sujets que nous évoquons ce matin, souvent des sujets un peu gris, un peu métalliques, un peu de dépression de notre société.
En ce moment, c'est ça.
Je souhaiterais aussi que l'on voit. Mais c'est aussi nos disques. Enfin, la réalité dépend aussi du regard que l'on porte et des cercles vertueux que l'on enclenche. Moi, je voudrais aussi qu'on parle des choses positives qui sont en train d'arriver à l'école. Je voudrais parler des milliers des co-délégués qui sont élus en ce moment, des actions pour la nature qui sont en train d'être faites en ce moment, de la réforme du lycée qui s'applique avec des élèves de première qui ont plus de liberté.
Mais le réel nous rattrape et parfois il est triste, Jean-Michel Blanquer.
Oui, c'est vrai, mais parlons aussi un peu des choses heureuses qui marchent, des écoles primaires que je vois en permanence et qui font des choses magnifiques, toutes ces choses qui caractérisent l'école du quotidien.
Retourner au standard. Laurent est en ligne. Monsieur le maire, on me dit que vous êtes maire. Bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur le ministre, mesdames et messieurs de France Inter, chers auditeurs, bonjour.
Dites-nous, déclinez votre identité, s'il vous plaît.
Donc je m'appelle Laurent Baron, je suis le maire d'une ville du Pré-Saint-Gervais dans la Seine-Saint-Denis que monsieur Blanquer connaît parfaitement. Je voudrais tout d'abord remercier Thomas Legrand pour son audito qui résume parfaitement ce que nous vivons. Et moi j'ai pas de questions à vous poser, mais simplement à vous proposer une invitation à vous rendre sur cette ville que vous connaissez, puisque vous étiez venu soutenir une candidate lors d'une élection précédente pour un meeting politique. Et ma question est simplement de vous dire que j'ai reçu le secrétaire d'État Cédric O sur le numérique il y a quelques semaines. Et donc j'aimerais vous recevoir pour discuter avec vous et vous faire comprendre un peu la réalité de cette ville. Nous avons eu à vivre le suicide de Christine Renon dont vous venez de discuter il y a quelques secondes. On vient de vivre le meurtre du jeune Gervaisien dans le lycée des Lilas Kévi. Et puis on voit que la communauté éducative est dans un profond désarroi et confronté sur ce territoire à quelques difficultés dont on n'arrive pas à s'extraire. Et donc j'aimerais vous inviter pour que vous puissiez vivre un peu les choses comme vous l'avez dit, puisque vous êtes sur le terrain au quotidien, pour pouvoir vivre des choses comme nous les vivons en tant qu'élus locaux.
Merci monsieur le maire. Jean-Michel Blanquer vous répond.
D'abord, merci pour l'invitation et je viendrai, bien entendu. Je viens souvent en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, j'étais il y a peu, d'ailleurs, avec Julien de Normandie pour annoncer quelques cités éducatives. J'en profite d'ailleurs pour dire que le Premier ministre s'exprimera au début du mois de novembre sur le plan Seine-Saint-Denis. Qu'il est en train de concevoir avec nous, c'est-à-dire de façon interministérielle pour apporter des réponses concrètes. Il y en aura notamment beaucoup en matière d'éducation, il y en aura certainement en matière de sécurité. C'est lui qui le dira, mais j'en profite pour vous l'annoncer. Merci de l'avoir rappelé, je suis très sensible aux réalités de la région parisienne et d'ailleurs de l'ensemble du pays, évidemment. Mais je connais assez bien les sujets de Seine-Saint-Denis, je connais les difficultés. Je sais aussi à quel point ces difficultés, nous arriverons à les résoudre si nous sommes unis, si nous sommes dans un état d'esprit de projet commun. C'est le sens, encore une fois, de ces cités éducatives qui sont extrêmement importantes pour les moyens nouveaux qu'elles vont donner pour agir sur les facteurs de la difficulté. On me parle beaucoup de sujets de sécurité en ce moment. C'est vrai que ma mission de ministre de l'Éducation nationale, c'est surtout la prévention sur ces sujets-là. Et même si je veux bien parler aussi des sujets de sécurité en tant que tel. Mais sur cette question de prévention, c'est-à-dire la réussite de notre mission éducative, et c'est notamment ce que nous faisons en ce moment en REP et REP+, mais ça nécessite une stratégie d'ensemble et je viendrai en parler avec vous avec grand plaisir.
Merci, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été au micro d'Inter ce matin.
C'est déjà terminé.
Oui, déjà. Il est 8h46.
Je vous remercie.